All right, Denis Gravel qui est en place pour parler du pit stop. Je peux vous dire qu'il y a de l'air d'un gars en pleine forme. Pour un gars qui a participé à l'événement Monday Night Raw au Centre Vidéotron hier, t'as l'air top shape. C'était pas couché tard?
Couché tard, mais levé tard aussi. Les enfants ont pas recommencé l'école encore, fait que ça donne une petite chance.
Je suis capable de faire ça, moi.
Eh mon Dieu que c'est
top. Je suis capable de dormir. Quand même que je me dis, hey, là, demain, là, je profite de ma matinée. 6 heures, les yeux bien grands ouverts. Merci, bonsoir, le vieux.
Ma blonde est en train de me corrompre parce que j'ai jamais été capable de faire de grasse matinée de ma vie. Une grasse matinée, pour moi, c'était me lever à 7h30 du matin.
Même avant les enfants?
Oui. C'était même encore pire parce que j'étais habitué de me lever le matin. Je travaillais à la radio le matin. Puis même avant ça, quand j'étais petit, j'étais un gars qui se levait très, très tôt puis qui se couchait de bonne heure. Là, 9h15, 9h30, 10h moins quart, ça arrive une fois de temps en temps. Ça m'est jamais arrivé.
Je vous envie tellement. Moi, peu importe à l'heure que je me couche, là, je me suis couché dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis couché à 5h du matin.
Qu'est-ce que t'as fait, Yannick?
6h30. Pouf, les yeux ben ouverts.
À 5h du matin.
Ah oui, puis là, après ça, j'étais avec mes gars. Puis à un moment donné, l'après-midi, ils ont décidé qu'elle allait se baigner. Puis après ça, ils voulaient jouer aux jeux vidéo. Fait que là, je dis, OK, on va aller se baigner. Mais rendu en haut, on se baignait, là, sur le toit.
Toi, tu dormais sur la chaise.
J'avais mis le nez de fumée, j'ai parti.
Ben, c'est sûr.
Là, je m'ouvre les yeux. Je suis supposé de surveiller mes enfants pas qu'ils se noient dans une piscine de 4 pieds. T'sais. Puis là, ils sont plus là. Fait qu'ils ont décidé, eux autres, qu'ils retournaient au condo en bas. Fait que je suis allé rejoindre. Puis là, jouer aux jeux vidéo. Puis là, moi, je me suis recouché. J'ai dormi.
Ben écoute, t'as dormi une heure.
Mais je suis pas capable de dormir tard.
Non, mais clairement, tu t'es couché tard.
Eh oui! Ma blonde vit de nuit.
Ouais.
Fait que si on veut passer un peu de temps collé, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse des concessions.
Ouais. Donc,
dormir le matin, ça me semble une concession tout à fait agréable.
Ouais. Donc, l'événement Monday Night Raw au Centre Vidéotron, c'est la deuxième fois depuis 2023 qui sont de passage.
Ouais.
Est-ce que tu penses que les organisateurs sont persuadés que la WWE au Québec, ça fonctionne avec ce qu'on a vu hier, là, les images qui étaient spectaculaires.
Sans l'ombre d'un doute. Puis c'est le fun pour les amateurs de lutte parce que ça nous permet de comparer. Tu sais, à chaque semaine, Netflix nous présente deux arénas de l'Amérique du Nord.
Ouais.
Raw, SmackDown, les deux émissions de la WWE en direct de Pittsburgh, en direct de Minneapolis, en direct de Détroit, puis ainsi de suite. Et quand on arrive à Montréal et à Québec, ben c'est parmi les foules les plus bruyantes, les plus nombreuses et les plus enthousiastes de l'Amérique du Nord. Puis je vais rajouter des points pour Québec parce que la première chose que j'ai faite hier soir en revenant du Centre Vidéotron, je voulais voir de quoi ça avait de l'air à TV. C'est un des arénas de l'intérieur qui paraît le mieux de l'Amérique du Nord. L'aréna a de l'air immense. L'aréna a de l'air 5 fois plus gros qu'elle semble.
Ah, ouais.
Oui. Puis je vous invite, les gens qui ont Netflix, vous aimez pas la lutte, c'est pas important. Allez voir les 15 premières minutes de l'émission Raw d'hier soir en direct du Centre Vidéotron. Premièrement, ça s'ouvre avec une shot extraordinaire de la ville de Québec pendant que le soleil se couche. Et après ça, regardons notre aréna. Puis oui, on n'a pas eu les Nordiques. Puis oui, l'aréna de Déor, on peut faire un débat finalement si c'est beau ou si c'est pas beau. Mais de l'intérieur, avec toute la technique de la WWE et de Netflix, c'est un de ceux qui paraissent le mieux en Amérique du Nord. Puis tabarnouche qu'on a fait du bruit.
Tu piques ma curiosité, puis je vais aller voir ça. Donc, plus de 10 000 personnes qui étaient là hier, côté spectacle. Moi, j'ai vu les photos passer sur mes réseaux sociaux, puis ce qui me marque à chaque fois, c'est de voir à quel point on s'est éloigné du gros mâle stéroïdé. Là,
ah,
avec
c'est fini, ça.
Les trapèzes à hauteur des oreilles. C'est tous des gars qui ont de l'air hyper en shape, qui sont capables d'être extrêmement spectaculaires.
Tu sais, ça suit les restes de la culture, hein, veut pas. À un moment donné, les joueurs du Canadien pouvaient fumer des tops puis vider une canne entre la deuxième et la troisième période, puis l'été, ils s'entraînaient pas. Les musiciens de rock se gênaient pas pour vider des bouteilles de Jack Daniels puis se faire des lignes, ses speakers.
Manger des chauves-souris.
Ouais.
En plus, ça arrache.
Là, les petits gars arrivent avec leurs bouteilles d'eau, ils jouent pendant 3 heures puis ils vont se coucher. Ben, la WWE puis les athlètes ont suivi un peu ce moule-là. C'est des gens qui sont plus en santé, qui s'entraînent plus. C'est des gens qui sont plus athlétiques. Puis s'ils sont pas athlétiques, ils sont plus acrobatiques parce que les gens sont exigeants. Tes montagnes de muscles des années 80, comme Hulk Hogan, c'était des...
Diesel.
Diesel, ben Diesel. Oui. Razor Ramon, puis tous ces gars-là, le British Bulldog.
Sont tous morts.
Sont tous morts jeunes, effectivement, à cause de l'abus de stéroïdes, entre autres choses. Mais c'est pas des gens qui, athlétiquement, étaient capables de faire grand-chose. C'était toujours les plus petits, tu sais, les Ricky the Dragon Steamboat, les Macho Man, qui étaient capables de faire des matchs un peu plus spectaculaires. Puis là, vois-tu, hier soir, parmi les lutteurs qui étaient là, entre 40 et 50 ans, t'as LA Knight, t'as CM Punk, t'as AJ Styles, des gars qui sont top shape et qui sont capables d'offrir un divertissement top niveau. Là.
Ouais. T'avais aussi Sami Zayn qui est là.
Oui.
J'ai regardé la shape à Sami Zayn, là, c'est pas le gars que t'as l'impression qu'il va au gym à chaque jour. Là. Lui, il a le six-pack, je suis pas sûr que ce soit son objectif. Là.
Non, puis je trouve que ça fait partie du charme de cette génération de lutteurs-là de dire ben t'as la shape que t'as, mais si t'es capable d'offrir un spectacle de premier niveau, les gens vont t'adopter. Kevin Owens a une bédaine. Sami Zayn, c'est pas une montagne de muscles, mais ils font partie des meilleurs lutteurs présentement à travers le monde. Puis c'était la première fois que Sami Zayn revenait à Québec depuis ses visites fréquentes au Centre Monseigneur Marcoux et au Centre Horizon. C'est toujours le fun de voir un petit gars qui a grandi dans notre cour, qui revient en avant d'un aréna neuf et plein. C'est toujours le fun à voir.
Ouais, puis ces gars-là, leur shape n'enlève absolument rien au spectacle.
Non, pis c'est ça.
Ces gars-là représentent un peu le gars moyen qui, lui, a un travail à faire, des enfants au travail. Il n'a pas le temps d'aller s'entraîner 7 jours sur 7, 4-5 heures par jour. Mm. Fait que tu peux prendre ces gars-là en modèle, puis surtout que tu me dis que maintenant, ils se sont éloignés des stéroïdes et tout ça. On va, tu sais, moi, je, en raison du fait que je suis tout le temps au gym, je vois. Puis au Tonic, honnêtement, j'en vois pas vraiment. Mais où j'habite maintenant, dans mon ghetto, il y a un gym qui est à côté, je vois les gars sortir, là, puis c'est les trapèzes à hauteur des oreilles. Ouais. Je me dis, hey, si mes gars un jour tombent là-dessus, là, tu sais, qu'ils prennent en modèle ces ouais. individus-là, c'est la mort assurée à 50 ans, Denis.
Tu sais, l'idée, dans le fond, qui a évolué au niveau de la WWE. Avant, c'était de dire on prend les plus beaux modèles de gars puis on les met de l'avant-plan puis on met des pitounes pour faire triper les gars qui regardent la lutte.
Genre John Cena?
John Cena est un bon exemple.
Parce que moi,
exemple.
J'ai aimé la lutte à ce moment-là.
Uh-huh. The Rock. The Rock qui prend beaucoup de stéroïdes depuis qu'il a lâché la lutte. D'ailleurs, allez oui. regarder la shape qu'il avait quand il luttait versus la shape qu'il a là. C'est hallucinant comment ce gars-là a gonflé. Là. Mais l'idée maintenant, c'est de dire on va donner une variété de modèles qui va faire en sorte que quelqu'un va trouver son lutteur ouais. ou sa lutteuse préférée. Tu sais, une lutteuse comme Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est une espèce de gothique avec les cheveux noirs, le rouge à lèvres noir. C'est pas Charlotte Flair, pis c'est pas l'idéal de la blonde avec les énormes seins. J'avais deux petites filles qui étaient assises à côté de moi puis ma blonde qui vénéraient Rhea Ripley, qui s'est même pas présentée sur le ring. Elle juste était là 10 secondes dans une promo backstage.
Capote.
Les deux petites filles ont manqué par de connaissance à côté de moi. Mais tu sais, tu vois, je pense que c'est une bonne stratégie de dire tout le monde peut se retrouver puis tout le monde peut se trouver un modèle ou un héros ouais. maintenant à la WWE.
Ah, c'est vraiment nice, c'est vraiment nice. Moi, mes gars écoutent la lutte sur Netflix, là, et puis je les entends triper, puis ils connaissent tous les noms des lutteurs. Je trouve ça le fun parce que je me retrouve un peu là-dedans. Moi, je me souviens de cette activité-là qu'on faisait le dimanche avec Édouard Carpentier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut! Puis mon père qui gueulait après les lutteurs en espérant que les lutteurs l'entendent au travers de la télé en 80.
Mais il y a eu une accalmie. Il me semble qu'il y a eu une
oui,
accalmie à un moment donné.
Pendant plusieurs années, oui. Ouais. Il y avait juste Denis qui tenait le
fort. M'en es-tu surpris?
Dans les années 80, la lutte est devenue plus à la mode que la lutte. Je veux dire, Hulk Hogan a eu l'effet sur la lutte que Tiger Woods a eu sur le golf. Tu sais, à un moment donné, ça devient plus gros que ton sport. Il y avait une série de dessins animés avec les vedettes de la WWE. Il était tout le temps sur le réseau MTV parce que Cyndi Lauper avait participé à un WrestleMania et ainsi de suite.
Hulk Hogan avait sa télé-réalité avec sa famille à Much Music.
Plus tard.
Oui, mais il était là pareil en termes de marketing.
Mais tu sais, t'as toujours eu des creux de vagues et des retours de vagues. Puis là, présentement, c'est ce qu'on vit avec la AEW, la WWE sur Netflix. C'est un retour de vagues, un retour de popularité. Puis moi, le plaisir que j'ai eu encore hier d'aller m'asseoir avec mes deux gars puis de les regarder triper comme des malades,
ouais.
Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Là.
Ah, moi, le plaisir que j'ai eu hier d'être à LCN pour faire ma job, regarder qu'est-ce qui allait se passer dans Arthabasca, ça n'a pas de prix.
Écoute, je présume que j'ai préféré ma soirée à la tienne.
46,3% des suffrages sont allés au Parti québécois. 35,1% pour le chef conservateur Éric Duhaime en seconde position. On a Chantal Marchand qui était la candidate libérale peu connue, qui a quand même fait une belle performance, là, si on regarde les autres, autour de 9,3%. La CAQ, puis je vous rappelle que c'était un bastion caquiste, là, a scoré à 7,2%. C'est un message clair qu'on envoie au gouvernement. Et on avait le parti un peu mêlé ces temps-ci. En fait, il a toujours été un peu mêlé, mais Pascale Fortin, qui, elle, était en Europe pendant la journée des élections.
Les votes pour elle aussi étaient en Europe.
Je pense que les gens, c'est ça, ils se sont rendus compte Facebook qu'ils se faisaient niaiser peut-être avec avec Québec solidaire. 1,5% des suffrages.
Mais en
pour
même
Québec
temps,
solidaire.
On a plus d'amis Facebook que le suffrage de Québec solidaire hier. Mais tu sais, faut se dire une affaire. Quand tu es sûr que tu perds, est-ce que tu vas te scraper un candidat? Puis tu vas le suraffiché en n'étant pas capable peut-être de le réutiliser.
Mais si tu veux démontrer ton sérieux, présente quelqu'un qui va faire une campagne, qui va être là dans tous les débats, puis que la journée de l'élection, elle va être présente
sur
place.
Je m'excuse de faire ça, Yannick, mais c'est très contradictoire avec ce que tu disais par rapport à Legault. Alors, je veux t'entendre sur la différence entre la CAQ dans Tabasca puis la candidate de QS et du
Legault, parti. C'était clair qu'elle allait perdre dans cette circonscription-là, puis on l'a encore une fois mis dans l'embarras hier, mais au moins, moi, je le salue, il s'est présenté.
Parce que tantôt, t'as dit, je serais même pas présenté, j'aurais pas mis un candidat.
Exact.
C'est super intéressant.
Moi, si j'avais été son conseiller, c'est j'aurais pas présenté de candidat, puis je me serais pas présenté ce soir-là.
Parce que moi, j'ai l'effet inverse.
Mais dans le cas de Québec solidaire, ouais. Eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est se faire voir sur le terrain. Ils ont présenté quand même une candidate, mais elle était pas disponible le jour des élections. Ce que je trouve ça un peu débile.
Moi,
elle est là, la différence.
André, mon cerveau a computé complètement différent parce que tu as les deux candidats vedettes. Je me disais, QS, va pas perdre ton temps là. Tu vas perdre ton temps point.
Mais tu sais quoi, ça aurait été un bon pic, ça. Si QS s'était pas pointé, ça aurait été correct.
Puis François Legault, je me dis, t'as pas le choix parce que sinon, tu montres que tu es en train d'être en défaite partout.
François Legault a mangé une volée, Denis. Puis hier soir, on a entendu qu'il a mangé une volée.
Là,
l'excuse facile, ça serait de vous. Ça serait de vous dire, c'est juste une élection partielle. Puis vous savez, les élections partielles, c'est toujours dur pour les gouvernements parce que c'est une bonne occasion pour les citoyens de dire « j'ai pas aimé telle ou telle chose du gouvernement ». Mais en même temps, faut pas se mettre la tête dans le sable. Je pense que les gens d'Arthabasca, l'Érable, ont été les porte-parole de l'ensemble des Québécois. Puis ils nous ont envoyé un message très clair, très direct, ils sont déçus. Les Québécois sont déçus de notre gouvernement. Puis j'aurais beau là vous parler pendant une heure des bonnes choses qu'on a faites en économie, des bonnes choses qu'on a faites en éducation, en santé, dans le domaine de la langue, de la laïcité. Il reste que les Québécois sont déçus de notre gouvernement. Pourquoi ils sont déçus? Bien, entre autres, certains dossiers, et puis je vais les nommer, entre autres, ils sont déçus des pertes dans le projet Northvolt. Entre autres, ils sont déçus de la saga de Saclic. Ils sont déçus aussi qu'on n'ait pas fait assez pour améliorer l'efficacité des services publics.
Il veut rester en raison de Donald Trump. Il a ajouté ça parce qu'il considère qu'avec son expérience, il pourrait ramener peut-être quelque chose de plus au Québec en raison du fait que le gros orange sème le trouble l'autre bord.
Il faut absolument rien dans ce dossier-là depuis le début de la guerre des tarifs,
exact.
François Legault.
Il veut se battre avec ses députés pour les Québécois et que le Québec reste le Québec. Et il veut se regarder dans le miroir et faire des changements. By the way, François Legault est à Québec aujourd'hui. Ça a l'air qu'il se promène en ville et qu'il jase avec les citoyens. Les journalistes ne sont pas invités et il y aura à répondre probablement à la question « Monsieur Legault, est-ce que vous allez rester pour les prochaines élections? » Donc, j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont avoir rencontré François Legault, mais je sais qu'il est à Québec présentement.
Est-ce qu'il y a des faiseurs d'images qui ont décidé de s'inspirer de notre passé catholique pour faire un chemin de croix à François Legault?
Ben, c'est ça.
Moi, un martyr des temps modernes.
Tu sais que tu vas manger une volée, ouais. Présente pas de candidat, puis dis Éric Duhaime représente 530 000 Québécois qui ont voté pour lui aux dernières élections et je juge qu'il a sa place à l'Assemblée nationale, donc je ne présente pas de candidat. Sachant que tu vas perdre, tu ne présentes pas de candidat puis tu n'as pas à faire le chemin de croix qu'il a fait hier soir. C'est épouvantable. C'est le chef du gouvernement, là.
À moins d'estimer que la seule façon de gagner des votes à la prochaine élection, c'est des votes de pitié puis des votes de compassion. Ah, pauvre François Legault, on y a mis ça dur hein, dans les dernières années. Puis regarde comment ce qu'il s'humilie en public puis qu'il se flagelle. Puis il nomme les problèmes. Il les comprend comme nous autres. Si c'est le seul argument qui reste à la CAQ, moi, je vais prendre de l'avance sur les réseaux autres TV, puis je vais le dire tout de suite, si la tendance se maintient, le prochain premier ministre du Québec s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon.
Et exactement. Si la tendance se maintient actuellement, ils ont la majorité de vote aux pour les électeurs généraux et dans la francophonie, donc majoritaire fort probablement.
Oui, exact. Oui. Si rien ne change, exact, c'est pas Pablo qui va changer
non.
les choses.
Non, là. Non, non.
Éric Duhaime.
Une campagne parfaite, ça n'existe pas, mais je vois difficilement des choses qu'on aurait pu faire mieux dans le contexte actuel. On a mené une campagne excessivement positive comparée à nos adversaires, probablement la campagne la plus positive. Et ça, je veux vous remercier de ça. Et votre travail, votre positivisme, bien, il a payé. Parce qu'en l'espace de 7-8 mois, on est passé de 20 % dans les sondages, on a dépassé le 25 % qu'on avait fait en 2022. Et ce soir, je ne sais pas, on va finir à 35, 36, 37, 38 %. Il reste encore des boîtes à compter, mais on va s'approcher du 40 %. On est le parti qui progresse tout le temps.
Il a raison là-dessus. T'as signifié avec un geste de tête qu'il n'y avait peut-être pas raison quand il a dit que c'était le parti qui avait fait la meilleure campagne.
Ben tu sais, c'est une campagne qui est très courte. Je vais comparer ça à un 100 mètres aux Olympiques.
Ouais.
Si tu rates ton départ, tu peux faire une course parfaite après. Mais si tu as raté ton départ, moi, ce qu'on m'explique, je ne suis pas un athlète, évidemment, là, mais c'est que si ton départ est raté, cours la course de ta vie, tu finiras pas premier. Puis dans le cas d'Éric Duhaime, je pense que c'était une mauvaise stratégie et une mauvaise idée de crier au meurtre quand le Parti québécois a présenté un candidat. L'impression que ça a donné, c'est « je pirate cette élection partielle-là » pour faire mon entrée à l'Assemblée nationale. Et clairement, les gens dans l'Arthabasca l'ont vu comme ça, ou en tout cas, il y a une majorité des gens qui l'ont vu comme ça, de dire, ben t'as peu, là, nous autres, on a nos enjeux, on a nos problèmes, on veut quelqu'un qui nous représente, nous autres. Parce que je le donne à Éric Duhaime. Il a brillé dans le débat qu'on nous a montré à LCN. Il a été, à mon sens, le meilleur des candidats qu'on nous a présentés. Mais dans Arthabasca, de la façon qu'il a commencé ça, je pense que ça a lancé le mauvais message pour une partielle, alors que, puis ça, il avait raison aussi, la guerre, ça va être l'élection, puis à partir du moment où il réussit à élire un député, par exemple, dans la région de Québec, bien, ce sera sa porte d'entrée pour l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il est parti avec le mauvais discours pour les gens d'Arthabasca. C'est dur de rattraper un mauvais départ. En tout cas, moi, c'est ma lecture.
Lui, ça fait un an et demi qu'il est dans Arthabasca. Ça fait un an et demi qu'il tente de se faire élire là. Alex Boissonneau est arrivé, il y avait quelques dizaines de jours. Là. C'est quoi, on est 30-40 jours à peu près. Il est annoncé, puis là, quand on l'annonce, on parle aussi de son passé qui est un peu louche, là, on va se le dire, là, l'intention de commettre un attentat. Il aurait demandé à un agent de la GRC de transporter une bombe, puis là, ça a été révélé. Mais Éric Duhaime faisait un an et demi qu'il travaillait fort, 7 jours sur 7, qui était entre Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, comté d'Arthabasca au grand complet, qui serrait des mains. Je sentais sa déception hier. Moi, j'y ai écrit hier matin pour lui souhaiter une bonne journée d'élection. Puis il pouvait être fier de tout ce qu'il avait accompli. Mais hier soir, je l'ai senti un peu fessé. La preuve, aujourd'hui, il y avait des entrevues de cédulés. Ils ont décidé de ne faire aucune entrevue. Mais si je peux parler à la gang du Parti conservateur, là, ce qu'Éric Duhaime a fait en quelques temps, contrairement à tout ce qui avait été fait avant, malgré tout le respect que j'ai pour Adrien Pouliot, qui est un homme que je respecte énormément, Adrien scorait à 1 %.
C'est ça.
Éric Duhaime a travaillé comme un cheval de guerre, comme un chien de guerre à tous les jours pour faire progresser ce parti-là. Puis aujourd'hui, il y a 530 000 personnes qui savent qu'Éric Duhaime, avec le Parti conservateur, existe. Ça n'a pas fonctionné dans Arthabasca, mais ce n'est pas la fin.
S'il y a une chose que je donne à Éric Duhaime, puis c'est pas juste depuis qu'il est politicien, c'est depuis que je le connais. Éric Duhaime, ça a déjà été un collègue, ça a été un ami. Éric Duhaime, la politique, c'est sa vie, oui. Là. Je veux dire, même que des fois, c'est une qualité et un défaut à la fois. Parce que toi, tu vois la politique, tu manges la politique, mais tout ce qui n'est pas politique, des fois, c'est dans tes angles morts. Tu sais, les bêtes politiques ont ce défaut-là, des fois, d'oublier que la personne sur le terrain, elle trippe pas autant politique que toi, elle mange pas autant de politique que toi, tu sais. Et dans le cas d'Éric Duhaime, non, je pense pas que ce soit la fin. Je la vois pas, moi, la relève, de toute façon, du Parti conservateur, mais il a des leçons à retenir, je pense. Choisir les bons enjeux, focusser sur l'économie, puis l'élection dans Arthabasca, je pense que la façon la plus simple de la lire, c'est que c'est juste une tendance provinciale. Il y a deux objectifs. Et l'objectif d'Éric Duhaime, qui était peut-être noble, c'est juste qu'il a été écarté du revers de la main. L'objectif du monde présentement, c'est de dire à Legault, on te sort, puis c'est probablement de voter pour la tendance forte. On a toujours été comme ça au Québec. Quand on sent que ça pogne à quelque part, on veut faire partie de ça. Et présentement, la donne, elle va au PQ. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon s'exprime bien, parce qu'il a montré qu'il y avait une gueule et un leadership qu'on pouvait accepter et tolérer au-delà des obsessions souverainistes. Et présentement, même si tu veux rien y donner, par défaut, c'est le seul qui peut devenir premier ministre à l'extérieur de la CAQ.
Actuellement, oui. Tu parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait présenté une candidature dans Arthabasca. Ça avait déplu aux conservateurs. Dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, on lui a présenté des candidats contre lui lorsqu'il s'est présenté dans Camille Lorrain. Et souviens-toi la raison pour laquelle il a réussi à passer. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Il y avait une petite voleuse qui volait des pamphlets qui étaient pour Québec solidaire. Puis elle volait les pamphlets du Parti québécois. Puis ça a fait en sorte que c'était elle qui était privilégiée pour passer comme députée dans cette circonscription-là, Camille Lorrain. Puis finalement, le vote de Québec solidaire s'est transféré pour le Parti québécois. Et Paul Saint-Pierre Plamondon est passé.
En passant, si vous pensez que la pire guerre présentement, c'est, je sais pas moi, entre les conservateurs et les péquistes ou entre le PQ et les conservateurs, les gens qui saillissent le plus sur l'échiquier politique présentement, c'est Québec solidaire et le Parti québécois.
Oui.
Ces gens-là se détestent violemment. Là.
Ils se cannibalisent aussi.
En fait, ils se cannibalisaient, mais je pense que le Parti québécois est en train de reprendre le dessus, ce qui aurait été impensable il n'y a même pas 10 ans.
Oui.
C'est incroyable. Hein?
Mais les conservateurs doivent se regarder. Je pense pas que les campagnes puissent être parfaites. Moi, dans le cas d'Éric Duhaime, si j'étais son principal conseiller, là, c'est on a avantage à présenter des gens, des vedettes populaires, qui sont des experts dans leur domaine, ça va être qui ton ministre de la Santé? À partir du moment où tu vas faire partie du gouvernement, c'est qui tu vas mettre? C'est Karim El Ayoubi? Je veux l'entendre plus souvent.
Ouais.
Ton ministre des Finances, ça va être qui? Ça va-tu être Adrien Pouliot? Je veux l'entendre plus souvent. Ou ça va-tu être un autre? Je veux l'entendre plus souvent. Mais là, c'est tout le temps un seul homme.
C'est un one-man show.
Exactement comme on a fait avec Pierre Poilievre. Enlève tes lunettes, Pierre. Va t'entraîner. Va au gym.
Sors ta femme.
On avait fait la même affaire avec Stephen Harper. Il faisait jouer de la musique.
Ben oui!
Jack Layton était trop cool. Fait qu'il fallait faire jouer de la musique à Stephen Harper. Là, faudrait peut-être qu'ils nous présentent des gens qui ont une certaine popularité, qui seraient des experts dans leur domaine.
Puis nous montrer qu'ils veulent prendre la game au sérieux. Moi, je pense que l'ouverture qu'il faut exploiter au niveau des conservateurs au Québec, c'est l'économie. L'économie, l'économie, l'économie. Dans la liste que François Legault nous a faite de ce qui nous rendait insatisfaits, il y a juste des dossiers économiques. Il y a notre argent qu'on a brûlé dans sa clique, notre argent qu'on a brûlé dans Nordvolt. Tu sais, des affaires qui sont rendues inacceptables puis qu'on ne tolère pas au Québec. Montre que tu vas être la rigueur économique. Lâche tes affaires de drag queen puis maudite niaiserie, là. Regarde, focus. Les woke, ces affaires-là, ça pogne à Montréal. Ailleurs, ça pogne pas. Parle d'économie, montre que tu as un sérieux économique, une crédibilité économique.
Mais
un
aussi,
programme,
parce
qu'Éric
Kass n'a pas fait, là, fait que
c'est
demander une crédibilité informatique.
Quelqu'un dit « Salut la gang, la relève du Parti conservateur du Québec, ça va passer par Jonathan Poulain, qui est avocat dans le secteur de Beauce-Sud. » Donc, c'est Alex qui nous écrit.
Je le connais
Jonathan
pas.
Poulain, il est très connu dans sa famille. Très connu en Beauce, très connu dans une station de radio en particulier, puisqu'il est chroniqueur. Mais dans le monde, au Québec, personne ne le connaît. Mais je répète, c'est un excellent candidat pour Beauce-Sud.
Je vais voler une idée qui n'est pas la mienne, OK? Parce qu'on avait une conversation 15 minutes avant de rentrer en onde avec les filles. Puis l'avenir des conservateurs, avec tout ce que tu m'as dit, il y a un gars qui fit le profil, puis Véro l'a peut-être trouvé. Olivier Primo.
Pas du tout.
Pourquoi?
Pas du tout.
Tu m'as parlé, tu m'as parlé d'économie.
Oui.
Tu m'as parlé de popularité.
Oui.
Tu m'as parlé de gars qu'on voit, qui est public.
Mais tu le mets où?
Chef.
En tout cas, il pourrait aller chercher les jeunes.
Éventuellement.
Puis il veut faire de la politique.
C'est un long shot, mais plus j'y pense, plus ça a de l'allure.
Je te rappelle qu'il a dit que le Parti conservateur du Québec, c'est un parti d'extrême droite. Là. Il y avait des trucs d'extrême droite alors qu'il n'y en a pas. Là.
Moi, j'ai parlé à ce gars-là cet été, puis je le dis parce qu'il ne m'a jamais dit « dis-le pas ». Mais il se magasine son parti parce qu'il a été approché par énormément de partis jusqu'à maintenant. Puis son projet sur l'eau, c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Et il travaille en conséquence pour rentrer en politique. Là.
Je pense que quand on se lance dans des chasses aux sorcières, et Éric Duhaime en a fait quelques-unes, ça met l'argument à portée de main de dire que oui, c'est un parti d'extrême droite. Puis à partir de ce moment-là, ben, quelqu'un qui le dénonce comme un parti d'extrême droite, puis qui dit « moi, je le ramasse, puis je l'enligne ou ce qu'il faut qu'il s'enligne pour ramasser du monde », moi, je trouve que c'est un gars qui part avec un bon narratif de départ.
Mais il parlait d'extrême droite. Par la suite, c'est un gars qui est en business. Il a énormément besoin de subventions avec ses business. Moi, j'ai dit hier, parce qu'on m'avait parlé de ce gars-là, puis effectivement, au niveau de la popularité, ça pourrait être une belle candidature. Mais il a, avec ses business, il a tellement besoin de subventions que j'ai l'impression qu'il va avoir du Alexandre Taillefer un peu. Tu sais, à un moment donné, ça peut, tu dis une affaire, mais de l'autre côté, tu prends l'argent du gouvernement pour faire rouler tes business.
Ça, c'est intéressant.
C'est gênant un peu de ce côté-là.
En même temps, moi, je veux l'entendre là-dessus. T'sais. Comment il explique ça? Comment il fait la différence s'il y en a une? À quel point il a eu besoin de l'argent du gouvernement? Puis à quel point des entrepreneurs en 2025 ont besoin de l'argent des gouvernements? Faut parler d'économie, faut parler de plan de match avant de parler de grands concepts comme la droite, la gauche, la souveraineté, le fédéralisme. Il est où le plan de match présentement? Mais toutes les cartes sont dans le milieu là, avec Trump, la guerre des tarifs, ce qui se passe dans le reste du Canada. Il y a plein de concepts qui peuvent changer.
Oui.
Amenez-nous à quelque part. Je vois pas de direction, je vois pas de projet, je vois rien.
Mais Pascal dit, il se magasine un parti.
Mm-hmm.
T'as des business, t'as besoin de subventions du gouvernement. Tu vas aller avec le Parti conservateur du Québec?
Écoute, c'est
la réponse, c'est non.
C'est vraisemblablement l'homme que les vieux conservateurs purs et durs voudraient pas. Mais on en a vu des clashs de ça, hein? Jeune génération versus vieille génération. Dans le secteur de Gabardie, il y a eu de la grogne un peu. Dans la région de Québec, hein, on choisit pas les bons conservateurs qui sont conservateurs depuis 50 ans. Peut-être que ça peut faire partie d'un changement de garde, personnellement.
Il va peut-être en créer un parti où il se lancera jamais, mais en ce moment, il se fait courtiser par tout le monde.
Moi, c'est pas un gars que j'affectionne particulièrement, mais je sais que dans les standards d'aujourd'hui, c'est un gars qui est très visible. Il va dire qu'une poutine est bonne, puis le propriétaire de la cantine peut prendre sa retraite l'année d'après. Là.
Recule-moi.
Je trouve ça fucking ridicule.
Il y a 20 ans, puis je suis un peu plus dans ton clan, mais par contre, dans les dernières années, réussir à s'entretenir autant, puis à monter un projet comme ça, puis à montrer que notre eau était à vendre, entre parenthèses, puis n'importe qui qui avait un peu richissime ou avec de l'argent dans les poches était capable de l'acheter dans un contexte géopolitique comme celui-là, je peux pas dire qu'il est pas brillant, là.
C'est un gars qui a réussi en affaires, quoi qu'on en pense. C'est un gars qui est une personnalité publique, quoi qu'on en pense. Puis moi, je le répète, j'ai pas d'affection pour le gars pour un paquet de raisons. Autant des choses que j'ai entendu dire que des choses que je sais. J'ai jamais eu la chance d'y parler directement, mais j'écoutais les demoiselles jaser tantôt, puis je trouve l'idée intéressante, puis ça brasserait. Je pense que ça a toujours été le problème des conservateurs au Québec de sortir de leurs préjugés qu'ils entretiennent eux-mêmes. Ce serait peut-être une nouvelle façon de voir les choses.
On l'avait reçu, Yann, tu avais trouvé ça comment?
Je veux dire, exactement ce que vous avez dit. Là. C'est un gars qui s'exprime super bien, c'est un gars de business et tout ça, mais ses business dépendent des subventions, puis il me fait trop penser à Alexandre Taillefer. Et j'ai l'impression, c'est une prédiction à la Jojo Marceau, là, il prendra pas le chemin le plus long pour arriver à ses fins, il va prendre le chemin le plus court. Donc, s'il décide d'y aller en 2026, Denis, je t'annonce que ça va être pour le Parti québécois. Ce ne sera pas pour le Parti conservateur.
Pour aller profiter du pouvoir. Peut-être.
Voilà.
Peut-être. Des fois, d'être patient puis de prendre le chemin le plus long, ça rapporte, par exemple. Il y a des gens qui vont se ramasser rapidement avec l'autocollant d'opportuniste quand ils fonctionnent comme ça. On peut penser à un ministre de l'Éducation, par exemple, qui ne sait pas quoi faire en éducation et qui, chaque année, maintenant, nous rappelle qu'on manque de tout. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, tu pognes ton plafond aussi là, à vouloir des gros ministères et à vouloir te négocier une place au soleil.
Denis Gravel, on vous écoute à 14h?
Ben oui!
Au revoir.
Tantôt.
T'as pas encore téléchargé l'application Boulevard 102.1 sur ton téléphone? On te juge pas, mais... Gratuit sur App Store et Google Play.
Vous voulez voir de quel bois on chauffe? Venez au Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Du 21 au 24 août, vous pourriez voir une vingtaine de compétitions forestières, le championnat canadien des hommes forts et plusieurs activités pour la famille. Sous le chapiteau des pionniers Boulevard 102.1.
The White Palomino, les trois accords, Salvarve et plus encore.
Vous voulez découvrir tout ça? Écoutez l'émission du matin cette semaine pour gagner votre accès double car on est partenaire du Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Venez voir ça!
As-tu encore des nouvelles lunettes? Celles-là? Non, c'est mes lunettes d'été que j'avais déjà. Tu dois te tromper avec mes nouvelles d'automne.
Ben, coudonc, as-tu des lunettes pour toutes les saisons?
Ben oui. Pourquoi m'en priver avec les prix de Scoop Vision? Scoop Vision, les lunettes au prix du web.
Il annonce chaud, fait froid. Il annonce froid, on crève. Pas simple, la météo?
Heureusement, avec SGL Climatisation Chauffage et ses appareils Daikin, l'installation rapide, les subventions et le financement disponibles, le confort est simple.
Ouais, 42 à l'ombre, ça le fait pas. Rafraîchis-toi avec une bonne bière de Chaloux. Plus de 1000 sortes en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
La météo, présentée par Tourisme et Chemin. Du beau temps en vue? Parfait pour un plan de dernière minute, glissade d'eau, rando et arrêt gourmand. tourismeetchemin.qc.ca.
Marceau, le midi.
Midi 35 minutes, 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, c'est le 29 degrés sur Québec avec le facteur humidex Pascal demain. Dehors, fait 36 degrés comme température ressentie. J'imagine que vous préférez être à l'ombre à cette température-là, ensoleillée pour aujourd'hui. Avec l'indice humidex, ça pourrait monter jusqu'à 41. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de 20 degrés. Demain, mercredi, 60 % de probabilité d'averse tard le matin et en après-midi.
Ça va faire baisser l'humidité, ça.
Exact, avec des risques d'orage, minimum de 18 et un maximum de 29. Pour ce qui est de jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Degré. Victor Henriquez, analyste politique. Salut, comment ça va?
Salut Yannick, salut Pascal. Hey, il fait chaud, hein?
Oui, il fait très chaud, autant à Québec qu'à Montréal. Tu sais, nous, on est à l'air climatisé, puis c'est bien facile de dire aux gens, lâchez pas, mais pour ceux qui travaillent dans les endroits où tu peux pas mettre d'air climatisé, je pense aux cuisines, je pense aux gens qui font de l'asphalte, je pense aux gens qui font de la toiture. J'ai énormément d'empathie pour eux, Victor.
Ben moi aussi, honnêtement, puis c'est eux qui souffrent le plus. Et pour les autres, rappelez-vous qu'il va faire moins 30 dans à peu près 6 mois. Donc, profitons-en le temps que ça passe. Mais c'est vrai que pour les gens qui travaillent à chaleur, on pense à vous. Puis buvez beaucoup d'eau parce que c'est dangereux.
Ben oui, puis je me demande si un jour on va avoir un problème avec des îlots de chaleur. T'sais, on commence là à vivre les grosses températures très, très chaudes. Puis il y a des endroits où c'est un peu plus compacté, comme dans ton Saint-Roch, Yannick. Peut-être qu'un jour, tu n'auras plus le droit à l'air climatisé. Ou un droit acquis, mais les autres n'auront plus l'opportunité.
Ah oui? Non, mais je pense pas qu'on ait un gouvernement assez weird pour faire ça. Là. Mais c'est pas la bonne station de réaction.
Ah ben, attends une seconde.
Non, mais en France, c'est ça. Puis c'est ouais. Parce qu'ils sont plus capables d'endurer les îlots de chaleur, ça monte trop.
Ouais, c'est pas la bonne station de radio qui dit aux gens, hey, c'est vous quoi? Nous, on est à l'air climatisé, mais vous autres, vous devez arrêter l'air climatisé pendant le jour parce que ça n'a pas de bon sens. Hydro-Québec, trop grosse demande. Hey, Victor, c'est pas de ça que je veux te jaser, cher ami. Je veux te jaser de l'élection dans Arthabasca. Je sais que ton temps est compté aujourd'hui, fait qu'on va faire les choses quand même assez rapidement. C'est assez particulier ce qui s'est passé hier. J'ai plein de choses à te jaser, mais est-ce que toi, si tu avais été le conseiller principal de François Legault, est-ce que tu aurais présenté quelqu'un dans cette circonscription-là en sachant très bien qu'elle allait se faire lessiver, puis en sachant très bien qu'à un moment donné, le premier ministre allait devoir concéder la victoire, puis être sur place, puis arriver en disant « Ben, savez-vous quoi, on vous a entendu, le dossier Northvolt, avec l'argent qu'on a dépensé, vous êtes fâché, Saga, ça clique, vous êtes fâché, service à la population, vous êtes fâché, l'augmentation du coût de la vie, vous êtes fâché, le manque d'efficacité des services publics, vous êtes fâché, Donald Trump, vous êtes être fâché, mais moi, je suis bon contre Donald Trump, fait que je veux rester là. Il faut qu'il se regarde dans le miroir, mais est-ce que tu leur aurais conseillé de présenter quelqu'un dans Arthabasca puis d'être présent sur place?
Ben, à partir du moment où est-ce que tous les autres partis ont présenté quelqu'un, oui, j'aurais conseillé de le faire parce que la nature a horreur du vide et ça aurait très mal paru de ne pas présenter personne.
Okay. Moi, j'en aurais profité, je m'en serais sorti différemment, Victor. J'aurais dit, savez-vous quoi? Il y a 530 000 personnes qui sont derrière Éric Duhaime. On ne présentera pas personne dans ce comté-là parce qu'on veut faire entendre cette voix-là à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que je m'en serais sorti.
Ça, si tu me permets, ça, c'est un gros sujet. Ça me fait plaisir qu'on en parle après. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit sur François Legault et sa lucidité. Parce que la question du mode de scrutin, je pense qu'il faut en reparler, c'est super important. Mais pour François Legault, moi, hier, j'ai beaucoup aimé le discours du Premier ministre. Puis, je le félicite quand c'est le temps, je le critique quand c'est le temps. On peut pas demander à des politiciens d'être transparents puis critiquer lorsqu'ils sont transparents et lucides. Hier, il a présenté un candidat. Bravo de s'être présenté dans le comté. J'ai connu des chefs de parti qui n'allaient pas au partiel quand ils allaient manger une raclée. Lui, il est allé voir son candidat, puis il l'a toujours fait. Bravo, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Ensuite, son discours est très sensé puis lucide. C'est vrai que les Québécois sont fâchés. C'est vrai qu'ils l'ont échappé sur sa clip. C'est vrai qu'ils l'ont échappé sur notre monde. Puis cette lucidité-là, c'est probablement sa dernière carte. François Legault a été à son meilleur lorsqu'il se montrait vulnérable, lorsqu'il se montrait capable de faire des erreurs, mais surtout de les corriger. Il lui reste un an de gouvernement. Qu'on aime ça ou pas, il reste un an avant l'élection à date fixe. On voulait des élections à date fixe, justement. On les a. Pendant cette année-là, on est mieux d'avoir un gouvernement qui sait où sont ses erreurs puis qui essaie de les réparer qu'un gouvernement qui nous fait à croire qu'ils n'ont jamais fait d'erreur puis qui essaie de nous faire à croire des mentries. Donc, moi, j'aime la lucidité de François Legault. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Il retourne sur le terrain. Il est allé rencontrer les gens à Québec. C'est là où est-ce que François Legault a le plus de chances de gagner des points s'il a en gagné. Et sinon, au moins, il perdra la prochaine élection en disant qu'il a tout essayé. Moi, j'aime ça, les politiciens qui sont transparents. J'ai aimé le discours d'hier. Maintenant, il faut que ça se poursuive. Okay. On nous a promis un caucus jeudi, un remaniement à venir. Il faut que les votines suivent les babines. Mais ce qu'il a fait hier, pour moi, c'est digne de ce qu'on veut des nouveaux politiciens. Et bravo de l'avoir fait, parce que c'est pour tout le monde qui l'a fait dans le passé. Ben,
une fois que c'est fait, pas le choix d'admettre qu'effectivement, il a fait son chemin de croix, puis il a fait le travail. Mais en tant que conseiller principal de François Legault, je ne l'aurais jamais envoyé là, puis il n'y aurait jamais eu de candidat, puis je m'en serais sorti avec le fait qu'Éric Duhaime doit être entendu à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai connu l'ère Charest, là, où pendant qu'il était en élection, l'équipe nous appelait à la station de radio pour dire « OK, l'autobus peut se stationner à quel endroit, et est-ce que c'est possible pour l'autobus de toujours avancer pour faire le tour puis revenir sur ses pas, où l'autobus doit reculer parce que pour nous, l'autobus de Jean Charest ne doit jamais reculer. » C'est pour dire à quel point tout était surveillé à la lettre. Si l'autobus de Jean Charest devait reculer, Jean Charest ne pouvait pas venir à la station. C'était incroyable.
Tu sais, Yannick, moi, j'étais là aussi à ces années-là. Puis on oublie qu'il y avait un contexte complètement différent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de multiplication des canaux de communication. Il n'y avait pas de grichage sur la ligne aussi nombreux que ce qu'on a en ce moment. Dans le temps, on poussait un message, il durait deux jours. Aujourd'hui, on pousse un message, il dure 10 minutes. Il y a tout ça qui a changé. Alors, je comprends ton point. Puis tu sais, c'est vrai que traditionnellement, c'est ça qu'on aurait recommandé. Mais en même temps, ce que je me dis en ce moment, c'est la transparence. C'est aujourd'hui un outil de gestion extraordinaire. L'authenticité, c'est probablement l'outil de communication le plus nécessaire et utile parce que la confiance passe par ça. Et tu sais quoi? Je trouve que, par exemple, quand on regarde les chiffres d'Éric Duhaime, qui a fait un beau résultat hier à Arthabasca, et quand on regarde la montée du Parti conservateur du Québec, pour moi, c'est la montée de la transparence, c'est la montée du discours clair, du discours simple, c'est la montée d'un petit peu plus de perte de contrôle. On n'a pas peur de dire certaines choses qu'on aurait eu peur de dire dans le traditionnel. Donc, je pense qu'il y a un public pour ça aussi. Donc, tu sais, je comprends ce que tu dis, puis j'ai fait partie de cette équipe-là, j'ai vu c'était quoi, j'ai vu les résultats extraordinaires. Je fais des communications aujourd'hui, mais je pense qu'on doit doser entre les deux. Et dans le cas du premier ministre, qui est un peu all-in, qui a toutes les cartes à jouer, qui a tout à perdre, qui a fait 4-5% hier, il n'y a plus rien à perdre. Donc, à un moment donné, tu peux être dans les demi-mesures, il faut que tu sois dans la transparence complète ou que tu ne sois pas nulle part. Il n'y a plus le luxe de se permettre de ce contrôle total que Jean Charest avait, et que Jean Charest avait dans une position de gouvernement, dans une position très forte. Parce qu'on se rappelle, dans ces années-là, Jean Charest était vraiment un leader non seulement respecté à l'extérieur, mais surtout respecté à l'intérieur de son propre parti. C'est une rockstar chez les libéraux, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça, il faut l'amener en perspective. Puis, c'est pour ça aussi que le résultat d'Éric Duhaime est important, parce qu'il va venir changer l'échiquier politique. Tu parles de ces gens qui ne sont pas représentés. Je veux juste amener un élément hyper important. On dit beaucoup que le mode de scrutin ne fonctionne pas. Jamais une correction. J'ai été regardé parce qu'hier soir, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mon Dieu, attends, c'est-tu le mode de scrutin le problème? Ou c'est-tu le mode de scrutin qui fonctionne pas ou qu'on n'a pas le bon mode de scrutin? Et le problème, c'est qu'on n'a pas le bon mode de scrutin. Le scrutin qu'on a au Québec, qui est celui qu'on a en Grande-Bretagne, qui est celui qu'il y a en Inde ou dans le restant du Canada, il est fait pour donner des biparties, qu'on appelle, pour donner des alternances entre les grands partis. Il a été construit pour ça. C'est une machine qui fait de la saucisse. Elle ne fait pas de viande hachée. Le problème qu'on a au Québec, c'est que ça fait trop longtemps que les partis nous promettent une réforme du mode de scrutin. Parce que là où on voulait avoir des partis forts dans le temps, aujourd'hui, on veut autre chose comme citoyen. On veut plus de représentativité, on veut plus de proportionnel. Tu sais, les Anglais ne sont pas en train de revoir le mode de scrutin. Ils vivent très bien avec leurs deux partis travaillistes et conservateurs qui s'alternent le pouvoir. Au Québec, c'est pas le mode de scrutin qui fonctionne pas. C'est qu'on veut plus ça. Alors, il va falloir qu'on décide comme citoyen de voter aussi pour ça, d'arrêter d'élire des gens qui ne font pas les réformes qu'ils nous promettent. Parce que à chaque fois que j'entends les institutions être critiquées, je trouve ça dommage, parce que c'est pas que l'institution fonctionne pas, c'est celle qu'on a choisie dans le temps et peut-être plus à jour aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai qu'Éric Duhem doit être représenté. Okay. En même temps, QS sera plus représenté. Il y en a d'autres qui se représenteraient plus. Ça peut aussi amener plus de gouvernements de coalition. Si on veut tout ça, parfait. Faisons le changement. Assurons-nous que la prochaine élection, les partis n'ont pas le choix de dire ensemble, on va réformer le mode de scrutin. Et tant qu'on se mettra à dire que c'est le système le problème, ben là, on est plus en train de dénoncer des systèmes que d'essayer de trouver des solutions.
Je veux te parler de Québec solidaire, parce que Québec solidaire n'a pas 50 ans d'histoire. Là. Ça a été un parti que ça a été long à démarrer. Je regardais les échecs des gens qui s'étaient présentés pour Québec solidaire dans le temps. Tu sais, combien de fois ils se sont présentés aux élections avant d'être élus? Amir Kadir, 3 échecs avant son élection en 2008. Il a commencé en 2000. Ça n'a pas fonctionné. 2003, ça n'a pas fonctionné. 2007, ça n'a pas fonctionné. Et en 2008, il est arrivé à l'Assemblée nationale. Manon Massé, 4 échecs. 2006, 2007, 2008, 2012. Puis en 2014, elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Françoise David, 2 échecs. Moi, c'est une politicienne que j'adorais, Françoise David. Là. 2007, 2008, elle a tenté d'arriver à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas fonctionné. Puis elle est arrivée en 2012. Fait que, message aux gens qui trippent sur les conservateurs. Là, avec ce qu'Éric Duhem a mis en place, fait juste quoi? Ça fait 2 fois, là? Ben, la 3e fois, ce sera peut-être la bonne. Ou la 4e fois, ce sera peut-être la bonne.
Moi, j'ai fait la prédiction qu'Éric Duhem serait élu. D'ailleurs, je me suis planté royalement.
Ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, c'est une prédiction.
Non, mais ça nous rappelle que les élections, elles se gagnent sur le terrain. Moi, j'avais une perception. J'étais pas dans Arthabasca. J'avais une perception de l'extérieur. J'avais l'impression qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Il en manquait un petit bout. Il y a une chose qui est claire pour les conservateurs qui nous écoutent, ne vous découragez pas.
Exact.
Ça fait partie du chemin avec le système de votation qu'on a. Et moi, je suis convaincu, comme toi, tu l'es, je pense, Yannick, il y aura des élus conservateurs prochainement à l'Assemblée nationale.
Mais il y a quelque chose, Victor, là-dedans, parce qu'il y a Lambert Drinville avec qui je parlais hier en ondes qui disait que lui est allé sur le terrain, vous pouvez le suivre aussi sur les réseaux sociaux, il est allé poser des questions aux électeurs d'Arthabasca. Ce qui s'y ressortait beaucoup, c'est on est tanné de la politique normale. Normal pour eux, c'était celle qu'on voit dans les dernières années. Ça nous prend un chien de garde. Pour eux, c'est le pitbull de la politique. C'était vraiment Éric Duhem. Il y avait beaucoup de ça qui avait été senti par Lambert Drinville. Il y a quelque chose qui ne colle pas, par exemple. Ou encore, c'est des gens qui ont voté PQ, mais qui ne voulaient pas nécessairement voter PQ, mais plus tasser la CAQ puis être sûr que ça passe. Puis qu'il y avait plus des allégeances politiques de gauche. Est-ce que c'est ça ou c'est vraiment un vote Parti québécois fort et assumé?
Moi, je pense qu'il y a une partie du vote qui est anti-Duhem. Je pense notamment que les libéraux sont plus bas que ce qu'ils devraient être avec leur nouveau chef. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a il y a beaucoup de gens qui disaient « je voterai pas libéral, je vais voter pour le PQ parce que je veux pas d'Éric Duhem ». Ça, ça va être le grand défi d'Éric Duhem. Rappelons-nous que le PCQ est né pendant la pandémie, période où est-ce qu'on a décidé de séparer les gens entre noir et blanc de façon très drastique. Je pense que c'est peut-être trop drastique d'ailleurs. Mais il faut qu'il se normalise. Il faut que son discours, il le répète plus. Il faut que les Québécois connaissent mieux le discours d'Éric Duhem, qui est intéressant sur plusieurs éléments. Puis plus on l'écoute, ben, plus on va avoir certainement de l'ouverture à ça. Donc, je pense qu'il y a un
plafond polémiste, là.
Moment,
sans le polémiste que l'on connaît.
Sans le polémiste. Là, okay. Le polémiste fait des nouvelles et bon sur les réseaux sociaux, mais les polémistes ne gagnent pas d'élection. Demandez à Éric Zemmour en France, c'est exactement ça. Il faut qu'Éric Duhem fasse un travail de normalisation qui n'est pas nécessairement de changer la nature de la bête ou de changer ce qu'il est, mais de se dire qu'il a besoin de parler à des gens qui sont moins dans la polémique.
Hey, mais je le disais ça, constamment, Eric, Victor, et ce qu'il me répondait, c'est « Sans ça, vous ne parlez pas de moi dans les médias. »
Il a
et
raison.
Moi, je me suis coltaillée avec lui là-dessus.
Oui, mais à 35%, Pascal, on n'aura pas le choix de parler de lui.
Exact.
Je comprends que c'était peut-être vrai il y a un an, c'était peut-être vrai il y a deux ans, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Ouais. Le résultat qu'il y a eu hier lui donne la légitimité pour aller parler. Mais sauf que à un moment donné, il faut que tu fasses le choix aussi de d'ouvrir tes horizons. C'est d'ailleurs là où QS a échoué. Puis le résultat d'hier, c'est un échec profond pour Québec solidaire. Parce que tu parlais de tout ce qu'ils avaient souffert, Yannick, pour se rendre à avoir une députation. Mais le résultat d'hier, ce qui nous démontre, c'est que QS est mal parti pour en avoir une après l'élection de 2026.
Oh, ça, on court à l'extinction de Québec solidaire pour ce qui est des prochaines élections. Victor Henriquez, c'était conseiller d'Éric Duhaime. Je te donne plusieurs jobs aujourd'hui. Conseiller de François Legault, conseiller d'Éric Duhaime.
Est-ce que, je vais prendre en sport.
Est-ce que tu lui conseillerais d'essayer de trouver des gens? Parce que là, il y a déjà Karim Elayoubi, qui est un médecin qui est au Saguenay, qui pourrait être ministre de la Santé. Est-ce que tu conseillerais à Éric Duhaime de se greffer de d'autres personnes qui sont quand même populaires, qui sont des experts dans leur domaine, qui pourraient, tu sais, qu'on pourrait présenter pour montrer qu'il y a un certain sérieux avec le Parti conservateur si jamais on veut les mettre au pouvoir?
Moi, je pense qu'il y a une... Il faut faire attention à pas monter les marches trop vite. Je pense que pour Éric Duhaime, de parler de mettre au pouvoir à ce moment-ci serait une erreur. Je pense que Éric Duhaime a bien réussi dans les dernières semaines, notamment dans le coin d'Arthabasca, parce que faut se dire, c'est une campagne réussie pour Éric Duhaime, a bien réussi à se positionner comme la voix du vrai monde, comme celui qui amène des vrais enjeux, des enjeux importants comme le prix de l'essence, par exemple, des enjeux comme l'objectif de 2035 pour les véhicules électriques, des choses où les gens se questionnent. Moi, je pense qu'il doit absolument aller chercher des gens qui vont l'aider à avoir de la crédibilité là-dessus. Alors, d'avoir des experts, d'avoir des gens qui viennent à ces événements, d'avoir un discours qui va porter dans le public parce que Éric Duhaime va montrer qu'il écoute les citoyens puis qu'il propose des solutions intéressantes. Parler de pouvoir, pour moi, c'est un peu rapide, mais en même temps, à la prochaine élection, il devra parler d'aspiration au pouvoir et c'est normal. Là, il y a une période qui s'en vient d'ici le mois de janvier où je pense qu'il y a un terrain extrêmement fertile pour Éric Duhaime de se positionner sur, justement, qu'est-ce qu'il veut apporter à la politique puis pourquoi cette voix des 560 000 électeurs non représentés à l'Assemblée nationale est si importante. D'entre nous, l'Assemblée nationale, c'est super important. Puis là, il faut savoir, est-ce que Youri Chassin va faire une sœur à Éric Duhaime puis va devenir député conservateur pour assurer la place d'Éric Duhaime au prochain débat des chefs? Moi, c'est quelque chose que je m'attends à voir dans les prochains mois. Mais on va s'entendre, là. J'ai les gens qui nous écoutent en ce moment. Les gens qui écoutent la période de questions à l'Assemblée nationale, c'est pas une tonne. Puis les gens qui écoutent les commissions parlementaires, c'est loin d'être une tonne. Les gens écoutent les nouvelles, les gens regardent les réseaux sociaux. C'est pas vrai que tu as besoin d'être à l'Assemblée nationale pour être présent. Éric Duhaime l'a démontré, il faut qu'il continue là-dessus, mais qu'il augmente son range puis qu'il arrête de vouloir faire de la polémique. Il faut qu'il fasse de la politique.
Okay.
Je pense qu'il est capable de le faire, honnêtement. Je pense que les conservateurs sont capables, s'ils font ça, d'aller chercher des électeurs puis d'amener au débat public, parce que c'est toujours bon d'avoir des partis qui apparaissent puis des nouvelles idées qui apparaissent. Faut juste oublier la polémique, puis je pense qu'il va avoir son espace dans l'espace médiatique et dans l'espace politique québécois.
Un petit sujet, il nous reste à peu près deux minutes, Victor Henriquez. Le gros orange de l'autre côté qui décide de déployer la garde nationale à Washington, bonne chose, mauvaise chose, pourquoi il a décidé de faire ça, puis est-ce que c'est justifié?
Catastrophe. Catastrophe parce que oui, il a le droit de le faire. La Constitution américaine dit que Washington, justement, est un secteur fédéral où le fédéral a le droit d'intervenir. Mais en même temps, dans l'image, en avait-il vraiment besoin? On est plus dans la démonstration de force que d'autres choses. La violence à Washington a été à son plus bas niveau des 30 dernières années. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y avait pas d'urgence d'agir là-dessus. Et Donald Trump fait ce qu'il fait le mieux, c'est qu'en ce moment, il tente de ramener plus de contrôle autour de lui. Moi, je n'aime pas ce virage-là, et d'ailleurs, il nous montre un peu ce qu'Éric Duhaime ne doit pas devenir. Hein. D'être un politicien de droite, d'être un politicien qui veut des résultats, qui veut qu'on améliore la condition de vie des citoyens, c'est noble. D'être un politicien qui cherche le contrôle et le pouvoir sur les autres et qui cherche à écraser, ce n'est pas noble, c'est le contraire. Et Donald Trump, on est plus dans cet élan-là. J'ai pas envie de dire que Donald Trump est un leader autoritaire, mais je vous dirais que je commence à avoir de la misère à dire le contraire.
Ben, c'est particulier, on voit ça dans d'autres pays.
Ça va loin, là.
Ouais, c'est ça, exact.
On voit ça dans d'autres pays où est-ce qu'on n'est pas habitué, puis on n'est pas habitué à voir ça si proche de nous. Moi, je suis né dans une dictature. Je vais vous dire une chose, ça commence à ressembler pas mal. Mais en même temps, il est élu. Donc, il y a des gens là-bas qui l'ont choisi pour ça. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est les élections de mi-mandat qui vont vraiment décider ce qui va se passer, parce que Donald Trump parle pour les Américains, pas pour son image à l'international, c'est clair, pas pour ce qu'on dit de lui. Il travaille pour les gens qui le font élire. S'il continue à gagner des majorités il va réussir, il va continuer à faire ce qu'il fait. C'est aux Américains de décider, puis c'est eux qui vont décider ce qui est mieux pour eux. Moi, quand je regarde ça de loin, par exemple, je trouve ça catastrophique à partir du moment où est-ce qu'on déploie un garde national puis qu'on diminue justement le pouvoir des institutions locales. On est en train de s'attaquer à des bases démocratiques extrêmement importantes. Ça, ça m'inquiète.
Ben, c'est parce qu'il met la garde nationale alors que les statistiques n'appuient pas ses dires. Ensuite, il parle de bidonvilles. Mais où sont situées les bidonvilles à Washington, Victor Henriquez? C'est une bonne question.
Pour Donald Trump, quand c'est pas un château, c'est un bidonville, probablement. Il viendrait chez nous et trouverait que c'est un bidonville. C'est là où est-ce qu'on est déconnecté complètement. Là. Comme tu le dis, tu sais, c'est tout le temps, on parle de fentanyl au Canada pour mettre des tarifs, mais ce n'est pas vrai. On parle de bidonville, mais c'est pas vrai non plus. Il y a une histoire qui se raconte dans sa tête, mais Donald Trump a compris une chose. S'il répète une menterie assez souvent pour que les gens le croient, il va pouvoir agir sur cette base-là. C'est ce qu'il fait depuis le début. Et les Américains sont supposés avoir un système qui est plus fort que ses présidents. Rappelez-vous comment les Américains se vantent de leur constitution, dire qu'ils sont le berceau de la démocratie. Honnêtement, c'est là que ça se passe de le prouver, parce que Donald Trump est en train de démontrer que peut-être que les institutions n'étaient pas si fortes que ça.
Ça nous permet de te jaser, en tout cas. Il y a beaucoup d'actualités. Merci, Victor Henriquez.
Merci.
Merci à vous. On s'en parle bientôt.
Bye-bye. Victor Henriquez, analyste politique. Toujours très intéressant. Pascal, sur la route?
Oui, il y a eu des petites complications dans les dernières minutes, entre autres sur Charest-Est, à la hauteur de l'autoroute Henri IV. La voie droite était bloquée. Il y avait un accident, les services d'urgence et tout ça. C'est terminé, mais ça a beaucoup ralenti le secteur. L'autoroute 40 Ouest, à hauteur du chemin du lac, voie droite bloquée, véhicule lourd en panne. On est en plein remorquage, donc ça ralentit et ça congestionne. Aussi, du côté de Félix-Leclerc-Est, à la hauteur 1ère Avenue, la voie droite est bloquée. Il y a également une panne.
Merci.
Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
Cet été, Boulevard 102.1 vous invite à profiter de la saison des terrasses comme il se doit, grâce à la cour arrière.